Chapitre 3. Mardi 8 décembre, fin de matinée. Après sa conversation avec le chef de la Rikskrim, Yonalina prend sa voiture pour parcourir la courte distance qui le sépare du service médico-légal de l'Institut Karolinska. Il tourne la clé de contact, passe la première et sort prudemment du parking. Avant de téléphoner au procureur général Jens Svanehjelm, il doit se remémorer tout ce qu'il sait sur l'affaire de Tumba. Le dossier où sont réunies les notes qu'il a prises depuis le début de l'enquête préliminaire se trouve sur le siège passager. Il se dirige vers Sankt Eriksplan et tente de se rappeler ce qu'il a déjà rapporté au parquet concernant l'enquête préliminaire sur les lieux du crime et ce que contiennent les notes qu'il a prises lors de sa conversation avec les services sociaux la nuit du drame. Yona passe le pont et voit sur sa gauche le morne château de Karlberg. Il récapitule les risques que comporte, selon les deux médecins, l'interrogatoire d'un patient si grièvement blessé, puis décide de repasser encore une fois dans sa tête le film des 12 dernières heures. Karim Mohamed était arrivé d'Iran avec le statut de réfugié. Journaliste, il avait été emprisonné au retour de Ruhollah Khomeini dans le pays. Après 8 années de prison, il avait réussi à s'échapper, avait passé la frontière avec la Turquie, puis avait gagné l'Allemagne et enfin Trelleborg. Depuis presque 2 ans, Karim Mohamed travaillait pour Yasmin Yabir, qui possédait la société d'entretien de locaux Johanssons, sise au 9 rue Alice Tregner à Tulinge. La commune de Botkyrka avait chargé la société de nettoyer l'école Tulingeberg, l'école Vista, l'école Broengs, la piscine Storvret, le lycée de Tumba, le centre sportif de Tumba et les vestiaires près du terrain de sport de Redstuag. La veille, lundi 7 décembre, Karim Mohamed arriva au terrain de sport de Redstuag à 20h50. C'était le dernier boulot de la soirée. Il gara son van Volkswagen sur le parking, pas loin d'une Toyota rouge. Les projecteurs fixés sur les pylônes métalliques autour du terrain de foot étaient éteints, mais les lumières des vestiaires étaient encore allumées. Il ouvrit les portes arrière du van, baissa la rampe, grimpa et détacha les courroies du plus petit chariot de nettoyage. Une fois devant le petit bâtiment en bois, il essaya d'ouvrir la porte des vestiaires des hommes et s'aperçut qu'elle n'était pas verrouillée. Il frappa, n'obtint pas de réponse, ouvrit. Ce n'est qu'après avoir coincé la porte avec une cale en plastique qu'il remarqua le sang par terre. Il entra, vit l'homme mort, retourna à sa camionnette et téléphona au secours. Le central entra en contact radio avec une voiture de police sur Udingvegen, non loin de la gare de banlieue de Tumba. Les deux policiers, Jan Eriksson et Erland Birkander, furent dépêchés sur les lieux. Tandis qu'Erland Birkander prenait la déposition de Karim Mohamed, Jan Eriksson entra dans les vestiaires. Il eut l'impression d'entendre des sons provenant du corps de la victime et se précipita sur lui, pensant qu'il était encore en vie. Lorsqu'il retourna l'homme, le policier comprit que c'était impossible. Le corps était dans un sale état. Le bras droit manquait et la poitrine était tellement déchiquetée qu'elle ressemblait à un bol rempli d'une bouillie sanglante. L'ambulance arriva, suivie de l'inspecteur Lillemor Blom. La victime fut identifiée sans problème. Il s'agissait d'Anders Eck, professeur de physique-chimie au lycée de Tumba, marié à Katia Eck, bibliothécaire, à la bibliothèque municipale de Udinge. Ils habitaient dans un lotissement au 8 rue de Gerzwegen avec 2 de leurs enfants, Lisa et Joseph. En raison de l'heure tardive, l'inspecteur Lillemor Blom chargea Erland Birkander d'aller avertir la famille de la victime pendant qu'elle enregistrait le rapport de Jan Eriksson et faisait procéder à un bouclage en règle du périmètre. Arrivé à la maison des Eck, Erland Birkander se gara et sonna à la porte. Comme personne ne venait lui ouvrir, il fit le tour du pâté de maison, alluma sa torche et dirigea le faisceau lumineux vers l'intérieur. La première chose qu'il vit fut une grande mare de sang sur la moquette de la chambre, des traces étalées, comme si quelqu'un s'était fait traîner par la porte, et une paire de lunettes d'enfant près du seuil. Sans appeler les renforts, Erland Birkander força la porte du balcon et entra l'arme au poing. Il fouilla la maison, trouva les trois victimes, appela immédiatement police et ambulance. Il ne s'aperçut pas du tout que le garçon était toujours en vie. Par erreur, l'appel radio d'Erland Birkander passa sur un canal couvrant tous les secteurs de Stockholm. Il était 22h10 quand Jona Lina, qui était dans sa voiture sur Drottningholmsvägen, entendit sur sa radio une voix bouleversée. Un agent de police du nom d'Erland Birkander criait que les enfants avaient été massacrés, qu'il était seul dans la maison, que la mère était morte, que tout le monde était mort. Un peu plus tard, il était à l'extérieur de la maison et manifestement plus calme, expliquait que l'inspecteur Lillemor Blom l'avait envoyé seul à la maison sur Gerdswegen. Soudain, Birkander se tut, marmonna qu'il était sur le mauvais canal, puis coupa la communication. Le silence retomba dans la voiture de Jona Lina. Les essuie-glaces balayaient les gouttes d'eau sur le pare-brise. En passant lentement Christine Berg, il pensa à son père, qui n'avait pas reçu de renfort. Jona s'arrêta sur le bord de la route près de l'école Stéphane, agacé par le manque de leadership à Tumba. Aucun policier ne devrait avoir à affronter seul ce genre de situation. Jona soupira, prit le téléphone et demanda à être mis en relation avec Lillemor Blom. Blom était de la même promo que Jona à l'école de police. Après son stage, elle s'était mariée avec Jerker Lindqvist, un collègue de l'unité de recherche. 2 ans plus tard, ils avaient eu un fils qu'ils avaient appelé Dante. Jerker ne prit jamais son congé de paternité, bien qu'il y eût droit. Son choix signifia une perte économique pour la famille et retarda la carrière de Lillemor. Jerker la quitta pour une toute jeune policière qui venait de terminer ses études. Jona avait entendu dire qu'il ne voyait même pas son fils un week-end sur deux. Jona se présenta rapidement quand Lillemor répondit. Il expédia les formules de politesse et lui rapporta ce qu'il avait entendu à la radio.
« Nous sommes en sous-effectif, Jona, » expliqua-t-elle.
« Et j'ai jugé que... »«
Ça n'a aucune importance, » l'interrompit-il. « Ton jugement était complètement à côté de la plaque. »
« Tu ne m'écoutes pas. »«
Si, mais... »«
Fais-le jusqu'au bout, alors. »«
Tu n'as pas le droit d'envoyer un homme seul sur les lieux d'un crime, même Jerker, » continua Jona.
« Tu as fini ?»
Après un bref silence, Lillemor Blom expliqua que l'agent Erland Birkander avait uniquement été chargé de prévenir la famille du drame et qu'il avait lui-même pris l'initiative de forcer la porte arrière de la maison. Jona lui dit qu'elle avait pris la bonne décision, s'excusa plusieurs fois et lui demanda ensuite, surtout par courtoisie, ce qui s'était passé à Tumba. Lillemor décrivit ce que l'agent Erland Birkander lui avait rapporté. Les couteaux de cuisine et les couverts qui gisaient sur le sol ensanglanté de la cuisine, les lunettes de la fillette, les traînées de sang, les traces de mains, l'emplacement des corps et des membres dans la maison. Elle dit ensuite qu'Anders Eck, qu'elle imaginait être la dernière victime, était connu des services sociaux pour sa dépendance au jeu. Ses dettes avaient été effacées, mais il avait emprunté de l'argent à la mafia locale. Et maintenant, un recouvreur qui cherchait à le retrouver s'en était pris à sa famille. Lillemor décrivit le corps d'Anders Eck dans les vestiaires et la façon dont le meurtrier avait commencé à le dépecer. Ils avaient retrouvé un couteau de chasse et un bras découpé dans la douche. Elle lui dit ce qu'elle savait de la famille et que le fils avait été transporté à l'hôpital de Udinge. À plusieurs reprises, elle insista sur le fait qu'ils étaient en sous-effectif et que l'examen des lieux du crime devrait attendre.
« Je vais passer, » dit Jona.
« Pourquoi ? »
demanda-t-elle surprise.
« J'ai envie de jeter un œil. »«
Maintenant ? » ?»«
Si ça ne te dérange pas. »«
Super, »
dit-elle d'un ton qu'il crut sincère. Jona n'avait d'abord pas saisi ce qui l'avait intrigué. Il ne s'agissait pas tant de la gravité du crime que d'une incohérence entre l'information qu'il avait reçue et les conclusions qui avaient été tirées. Ce n'est qu'après s'être rendu sur les 2 scènes du crime, les vestiaires près du terrain de sport de Redstuag et la maison du lotissement 8 rue de Gerdswegen à Tumba, qu'il eut la certitude que des observations concrètes pouvaient confirmer son intuition. Certes, il ne s'agissait pas de preuves, mais ce qu'il avait observé l'avait suffisamment frappé pour qu'il se sente obligé d'en tenir compte. Il était convaincu que le meurtrier avait tué le père avant d'attaquer le reste de la famille.
D'abord, les empreintes de pieds dans le sang sur le sol des vestiaires semblaient plus vigoureuses, plus énergiques, comparées à celles de la maison. Ensuite, le couteau de chasse trouvé dans la douche près du terrain de sport avait la pointe cassée, ce qui expliquait les couverts répandus à terre dans la cuisine de la maison. Le meurtrier avait cherché une nouvelle arme. Yona avait sollicité l'assistance d'un généraliste de l'hôpital de Udinge compétent en la matière, en attendant l'arrivée du médecin légiste et du technicien du laboratoire gouvernemental de la police technique et scientifique. Ils procédèrent à un examen préliminaire de la scène du crime dans la maison. Puis Yona contacta l'Institut médico-légal de Stockholm et demanda une autopsie approfondie. Lillemor Blom fumait une cigarette adossée à un poteau près d'un boîtier électrique quand Yona sortit de la maison. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas été aussi secoué. C'était manifestement sur la fillette que la violence la plus extrême avait été exercée. Un technicien de la police scientifique était déjà en route. Yona enjamba les rubans de signalisation bleu et blanc qui délimitaient le périmètre et rejoignit Lillemor. Il faisait nuit. Le vent soufflait. De temps à autre, de rares flocons de neige leur piquaient le visage. La lassitude qui se lisait sur les traits de Lillemor ajoutait à son charme. Ces derniers temps, son visage était marqué de rides de fatigue négligemment cachées sous des paquets de maquillage. Mais Yona avait toujours pensé qu'elle était belle, avec son nez droit, ses pommettes hautes et ses yeux bridés. « Vous avez lancé l'enquête préliminaire ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête et rejeta de la fumée. « Je m'en charge, » dit-il. « Alors je vais rentrer me coucher. »« Ça donne envie, » dit-il en souriant. « Tu n'as qu'à venir ?» plaisanta-t-elle. « Il faut que je voie si je peux parler avec le garçon. »« Bon. Au fait, j'ai téléphoné au labo de la police scientifique pour qu'il contacte l'hôpital de Udinge. »« Parfait. » Lillemor jeta sa cigarette par terre et éteignit le mégot avec le pied. « En quoi cette affaire concerne-t-elle la Rikskrim ?» demanda-t-elle en jetant un regard en direction de sa voiture. « On verra, » marmonna Yona. Les raisons de ces meurtres n'avaient aucun rapport avec une tentative de recouvrement de dettes de jeu, se dit-il. Ça ne collait pas. Quelqu'un voulait exterminer toute une famille, mais les motivations qui le poussaient restaient obscures. De retour dans sa voiture, Yona téléphona de nouveau à l'hôpital de Udinge. On l'informa que le patient avait été transféré au service de neurochirurgie de l'hôpital Karolinska à Solna. Son état s'était détérioré depuis que les hommes de la police technique et scientifique de Linköping avaient demandé à un médecin de relever sur lui toutes les traces biologiques. C'était le milieu de la nuit quand Yona reprit la route pour Stockholm. Sur Södertäljevägen, il téléphona aux services sociaux pour engager une collaboration autour des interrogatoires prévus dans le cadre de l'enquête préliminaire. Il fut transféré à la cellule de soutien psychologique pour les victimes et témoins. Une assistante de garde, Suzanne Granat, lui répondit. Il lui fit part des circonstances particulières et demanda à pouvoir reprendre contact avec elle une fois que l'état du patient se serait stabilisé. Yona arriva aux soins intensifs de neurochirurgie de l'hôpital Karolinska à 2h05. 15 minutes plus tard, il put s'entretenir avec le médecin de garde Daniela Richards. D'après son diagnostic, il serait impossible d'interroger le garçon avant plusieurs semaines, si jamais il survivait à ses blessures. « Il est en état de choc, » dit-elle. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Il perd beaucoup de sang. Le cœur tente de compenser, mais du coup, il s'emballe. « Est-ce que vous avez réussi à arrêter l'hémorragie ?»« Je pense, je l'espère. Et nous lui faisons une transfusion sanguine continue. Mais en raison du manque d'oxygène dans le corps, les déchets métaboliques ne sont plus évacués. Le sang devient de plus en plus acide et peut endommager le cœur, les poumons, le foie, les reins. « Est-il conscient ?»« Non. »« Si je dois lui parler, » demanda Yona, « est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Le seul qui pourrait éventuellement accélérer le rétablissement du garçon est Eric Maria Bark. « L'hypnotiseur ?» demanda Yona. Elle afficha un grand sourire et son visage s'empourpra. « Ne l'appelez pas comme ça si vous voulez qu'il vous aide. Il est notre meilleur expert dans le traitement des chocs et traumas aigus. »« Ça vous dérangerait si je lui demandais de venir ?»«
Au contraire, j'y ai moi-même pensé.
Yona fouilla ses poches à la recherche de son téléphone, comprit qu'il l'avait oublié dans la voiture et demanda à Daniela Richards s'il pouvait lui emprunter le sien. Après un compte-rendu des faits à Eric Maria Bark, il téléphona de nouveau à Suzanne Granat des services sociaux pour expliquer qu'il espérait pouvoir parler bientôt avec Joseph Eck. Suzanne Granat l'informa alors que la famille se trouvait dans leur registre, que le père était un joueur compulsif et qu'ils avaient eu affaire à la fille 3 ans auparavant.
« La fille ?» demanda Yona sceptique. « La fille aînée, Evelyn, » expliqua Suzanne.